Salut Lirza.
Hi Barbie.
How you doing?
I'm fine. How are you?
Ça va, merci. Premier jour de règles et retour Disneyland, je suis fatiguée.
Alors moi, j'ai pas mes règles, mais retour de Disneyland.
Ça t'a agressé plus que moi, le retour?
Ouais, je l'ai pris en pleine gueule. C'était comme si j'avais la gueule de bois. J'avais vraiment, tu sais, beaucoup d'informations à traiter dans ma tête.
Mm-hmm.
Et très, très, très envie de retourner à Disney.
Bienvenue aux Poissons sans bicyclette.
Merci beaucoup, toi aussi.
Merci. Ça fait très longtemps, alors je suis un peu rouillée. On va parler de féminisme et de l'art mainstream aujourd'hui.
Yes.
Personne n'a loupé cette information, mais cet été est sorti le film Barbie.
Hi Barbie.
Qui a enflammé l'Internet, le monde. Tout le monde a donné son opinion,
oui.
Beaucoup trop fort. Voilà, on voulait parler de Barbie, et puis si on a le temps, de la merveilleuse tournée de Beyoncé Renaissance que nous avons été voir à Francfort.
Ouais.
C'était l'option la plus simple où on a réussi à avoir des billets.
Trop cool, moi je m'en réjouis trop. Déjà j'adore parler pop culture en général.
Oui.
Et puis aussi, je trouve ça assez beau que c'était une année où le féminisme était tant dans ta gueule, dans des trucs méga mainstream en fait.
Ouais.
Barbie c'était 1 milliard au box-office, la première
wow.
fois de la part d'une femme.
Wow.
Et c'est tellement, enfin on va en discuter après, mais genre le film est tellement dans ta gueule féministe
mm-hmm.
que je trouvais ça juste magique. J'en reviens toujours pas, je comprends pas en fait.
Non, moi non plus.
Donc c'est trop bien, je m'en réjouis d'en parler.
Trop bien. Avant ça, on voulait donner un peu des news du podcast.
Oui.
Parce qu'il y a un peu des changements. Moi, j'ai décidé de prendre un peu de recul avec le podcast, mais mm-hmm. ça va continuer à passer, ne vous inquiétez pas. Après de longs mois de réflexion, je dirais, je me suis dit que j'avais besoin de prendre un peu plus de recul pour plein de raisons, et aussi le fait que les personnes qui sont militantes toute l'année ont tout mon respect, mais en fait j'ai pas la force pour ça. C'est-à-dire que je trouve que quand on plonge souvent dans le féminisme et on peut parler de trucs très fun et puis on a toujours eu des invités super et puis très intéressantes, mais je trouve que plus on plonge dedans et puis des fois j'ai l'impression que c'est un peu difficile de sortir la tête de l'eau. Et
ouais,
puis
ouais.
de se dire que le monde va mieux, puis c'est cool.
Ouais.
C'est vraiment ce truc de ben, plus tu plonges dedans, plus t'es au courant de choses. Et puis j'ai vraiment eu toute une phase où je suivais tellement sur les réseaux sociaux, plein de comptes militants hyper intéressants. Mais il y a vraiment un moment où en fait tu vois vraiment le monde en noir. Et puis.
Ouais, c'est clair.
Je dirais pas le sexisme partout, parce que en fait le sexisme est partout. Tu plonges plus profondément et autant tu te renseignes de plein de choses, autant pas être déprimé tout le temps, c'est cool.
Oui, c'est clair.
En vrai.
No way. Tu veux pas être déprimé tout le temps, c'est trop.
Non, cool. C'est incroyable. Et du coup, ouais, ça a plus un peu ouais. Beaucoup de charges en général
ouais.
qui font que voilà. J'ai pris la décision de laisser Lirza, qui n'est pas du tout seule en fait.
Non, je suis pas du tout seule, c'est vrai. Du coup, moi je trouve ça très cool que tu fasses ça, dans le sens où je trouve ça sain. En général, je trouve que les choses saines sont en mouvement. Donc. Être figé là au podcast ou à garder une formule figée du podcast parce qu'on y tient pour plein de raisons, c'est pas sain.
Mm-hmm.
Moi, c'est clair qu'au début, quand tu m'as dit ça, j'ai eu un petit deuil à faire parce que j'étais là. Tu fais tellement partie de l'ADN du podcast. Et puis, c'est tellement cool de faire ça avec toi que j'ai eu un peu de digestion de l'info à faire.
Mm-hmm.
Je me suis dit ce que je viens de dire, que c'est de toute façon sain de rester dans le mouvement. Et je suis contente que tu m'aies juste dit ce que tu vis. Et qu'on puisse en discuter. Et du coup, ça m'a permis moi aussi de me poser la question, est-ce que je veux continuer le podcast ?
Mm-hmm.
Parce que c'est pas non plus acquis. Comme tu dis, c'est de l'activisme, enfin c'est du bénévolat.
Mm-hmm.
Et du coup, j'ai décidé que j'allais faire en tout cas encore une saison. Puis j'ai décidé de faire un peu moins d'épisodes parce que ça me demande beaucoup de les finir, ces épisodes. Et puis aussi, je réalise que même l'audience suit pas forcément parce qu'il y a beaucoup d'épisodes.
Ouais.
Et actuellement, il y en a genre 32 qui sont là. Donc les gens qui
wow.
nous découvrent des nouvelles personnes, ils ont du travail avant d'arriver dans les épisodes d'aujourd'hui. Donc,
ouais.
En fait, je me dis, on peut se permettre d'avoir moins d'épisodes. Cette saison, elle va durer donc de octobre à juin avec un total de 8 à 10 épisodes. C'est moins qu'avant. Et du coup, quand toi t'as dit que tu voulais prendre du recul et te détacher un peu du podcast, je me suis dit que j'allais plutôt faire une formule où on est un pool de co-animatrices en piochant dans les anciennes invitées ou anciens invités ou même des nouvelles personnes. Enfin, n'importe qui peut venir soit pour un épisode, soit pour 3 épisodes, être là avec moi en co-animation, soit pour un épisode tête-à-tête, soit pour avec une invitée. Mais en tout
mm-hmm.
cas, c'est plus cette formule figée binôme, quoi.
Ouais, ouais.
Et c'est ce qui se passe, et c'est vachement cool, en fait. La preuve que le mouvement, en fait, c'est positif si on le prend comme un truc positif, parce que toi, vraiment, tu fais partie de l'ADN du podcast, mais d'autres gens viennent, et si tu leur laisses la place, ils ajoutent leur propre grain, quoi.
Ouais.
Elles ajoutent leur propre grain, en l'occurrence, en grande majorité. Et puis, il y aura des nouvelles dynamiques, et puis, c'est cool, quoi.
Ouais, à fond.
Les co-animatrices ou co-animateurs seront pas différents à chaque fois, mais il y en aura plusieurs. D'ailleurs, toi, t'es pas non plus en mode so long motherfuckers
bye Je reviens plus jamais. Non, pas du tout. Comme t'as dit, en fait, on change un peu ce binôme toujours présent.
Oui, exact.
En fait, simplement. Exact. Parce que les seuls épisodes où j'étais pas là, c'est quand j'étais un peu en congé mat, quoi.
Mais on a eu juste un.
Ouais, donc voilà.
C'est cool. Vraiment, moi, je trouve ça très bien.
Oui.
Puis un truc que je voulais dire aussi, c'est que moi, je comprends trop ce côté. En fait, c'est douloureux, quoi, d'être tout le temps dans le sujet. Une des raisons pour lesquelles aujourd'hui l'épisode c'est le féminisme mainstream, c'est parce qu'on voulait faire un truc fun.
Ouais, c'est clair.
Yes.
C'est hyper important. Hey Barbie, dont la metteuse en scène est Greta Gerwig, qui a fait Little Women.
Oui.
Un des films préférés de Lirza.
Oui.
Elle a fait quoi d'autre?
Je sais pas. Oui, elle a fait Lady Bird.
Ah oui, Lady Bird. Il me semblait que j'avais regardé toute sa filmographie ces deux dernières semaines.
Oui,
mais, oui, Lady Bird et Little Women qu'on recommande. J'ai beaucoup aimé les deux. Toi, Lady Bird, forcément moins, mais parce que t'es trop fan de Little Women.
Little Women, I died.
Ouais, il est vraiment très bien. Margot Robbie, qui fait partie des producteurs, parce qu'il y a aussi des hommes. Le plot que je vais vous lire. Parallèlement au monde réel, il existe Barbie Land, un monde parfait où les poupées Barbie vivent joyeusement, persuadées d'avoir rendu les filles humaines heureuses. Mais un jour, une Barbie commence à se poser des questions et à devenir humaine. Sur les conseils d'une Barbie bizarre, elle part pour le monde réel afin de retrouver la fille à laquelle elle appartenait, afin de pouvoir retrouver sa perfection. Dans sa quête, elle est accompagnée par un Ken fou amoureux d'elle qui va également trouver un sens à sa vie dans le monde réel. It's so funny. Comme t'as dit avant, en fait, moi, je comprends pas que ce film ait eu autant de succès. Parce qu'il est vraiment hyper drôle, mais c'est un humour vraiment décalé.
Il est bizarre.
Il est vraiment absurde. Vraiment, quand je regardais ce film, je me disais, j'en reviens pas que autant de gens aient aimé. Et encore, moi, je veux dire, j'adore. Faut croire que j'ai pas un humour si spécifique. Mais je suis vraiment étonnée qu'on ait fait un film si perché, avec autant de budget, un casting comme ça. Enfin, vraiment, j'en reviens pas.
C'est vraiment, j'ai l'impression, ce film, la définition de la licorne, quoi.
Vraiment.
Il est sorti de. Pas vraiment de nulle part, mais moi, je m'attendais pas à avoir un film Barbie. Dans ma vie, pas du tout. J'étais là, ah, ils font un film Barbie, ok, mais je sais pas ce que c'est, quoi.
Ouais.
Comme tu dis, c'est l'humour absurde, et moi, j'en revenais pas le féminisme affiché, en fait.
Oui.
Enfin, moi, je comprends pas comment on est arrivé là.
C'est clair. Moi, je suis allée le voir après toi,
ouais.
Et tu m'as dit, j'ai jamais vu un film mainstream aussi féministe.
Ouais.
Et vraiment, oui, c'est un euphémisme, quoi. Enfin, genre, il est féministe. On se cache pas.
Tu sais, on en parlait ensemble, et il y a plein de films féministes que nous, on adore, notamment Little Women.
Oui.
Puis on disait que c'est toujours des films où le féminisme est entrelacé dedans. Et que toi, tu disais, en fait, si tu veux faire semblant qu'il n'y a pas de féminisme dedans, tu peux.
Enfin, tu peux pas le voir, quoi.
Tu dis, non, mais c'est juste l'histoire de quatre sœurs, tu vois.
Oui,
ou,
c'est ça.
Ou je sais pas quoi, d'autres. Ou genre, portrait d'une jeune fille en feu. Tu dis, mais non, mais c'est juste une histoire d'amour, ou j'en sais rien.
Barbie? C'est impossible à ignorer, parce qu'on parle, on nomme le patriarcat.
Je sais pas combien de fois.
Combien de fois t'as entendu le mot patriarcat dans un film mainstream?
Oui.
Pas souvent, on parle officiellement de féminisme.
Ouais.
Féminisme. Ouais. De standards de beauté, de. Enfin, on parle de tellement de choses. Qui sont tellement impressionnantes.
Mais Ken, dans ce film, dit plein de fois « We're gonna make a patriarchy, we made a patriarchy, patriarchy is awesome. » Elle était là genre « Ouais, vous prenez pas de pincettes, clairement. »
Pas du tout, ouais.
Moi, je veux juste raconter vite fait, peut-être je vais couper, mais l'expérience de quand je suis allée au cinéma, parce qu'en fait, j'avais entendu parler de Barbie, j'ai vu que c'était Greta Gerwig qui faisait, j'étais là « Mais moi, je vais aller voir, parce que je savais que ça allait être incroyable, juste à cause de la metteuse en scène, à cause de Margot Robbie, tout ça. Mm-hmm. » J'ai chopé des billets pour l'avant-première. Déjà, la salle était pleine, très communauté queer, bourrée de gens déguisés en Barbie et en Ken. C'était une super expérience, trop positive. Et les gens rigolaient ouvertement à des moments drôles. Et à la fin, tout le monde applaudit. Et j'ai trouvé ça trop joyeux. Trop
c'est
super.
Trop cool.
Ouais.
Oh, c'est une trop cool expérience.
Ouais.
Tu l'as vu en Suisse?
Oui, oui, à Lausanne.
Ah ouais, okay. Ouais. Ok. Trop stylé.
On va parler du film. On va le diviser en quatre sujets.
Mm-hmm.
La première partie, c'est Barbie Land. La deuxième partie, c'est le vrai monde. La troisième partie, on va parler un peu de Mattel, qui sont les fabricants de la poupée Barbie et qui ont sponsorisé le film. Enfin, qui ont commandé le film.
Oui.
Et la troisième partie, c'est la guerre contre le patriarcat. Donc ça commence dans le Barbie Land et c'est vraiment un set qui ressemble à vraiment la maison de Barbie, la Dream House.
Ouais.
Je crois que j'ai jamais eu, mais genre je vois ce que c'est, quoi.
T'as
eu, toi?
Non.
La Dream House de Barbie?
Non, moi j'avais plein de trucs, mais j'avais pas de maison.
Ouais, donc en fait tu vois l'actrice Margot Robbie qui joue la Barbie stéréotypique, puis ça s'appelle comme ça.
Ouais, elle s'appelle. Enfin, toutes les femmes dans Barbie Land s'appellent Barbie et tous les hommes s'appellent Ken.
Il y a une scène qui dure genre 5 minutes, c'est Hi Barbie,
Hi Barbie. Hi, Barbie.
J'adore.
Et c'est très drôle.
Et en fait, le Barbie Land, c'est un monde, c'est kind of un matriarcat. Genre, les Barbie, elles sont trop heureuses dedans. Mm-hmm. Elles ont chacune une dream house, une belle maison.
Mm-hmm.
D'ailleurs, c'est très bien filmé parce que c'est vraiment les actrices, elles jouent comme des poupées. Genre,
mm-hmm.
elles ont des pieds qui sont pas plats. Enfin, elles marchent sur la pointe des pieds.
Enfin, c'est vraiment comme si il y avait des mains d'enfants qui les transportaient. Oui. Enfin, il y a ce côté pas du tout naturel. Mais
ouais.
Très marrant.
Pas de gravité, en fait.
Oui, elles passent de l'étage
ouais.
au rez-de-chaussée juste en sortant de sa maison en l'air, quoi.
Ouais, exact.
Donc c'est vraiment un monde de poupées, mais joué par des gens, quoi. C'est trop marrant. Et en fait, Barbie Land, du coup, les Barbies sont trop contentes dedans. Tous les soirs, elles font Ladies Night, puis elles, sont, elles font la fête ensemble, puis elles chantent, elles font décorer.
Ouais.
Et aussi, genre, les Barbies, c'est... Il y a une Barbie présidente. Toute la Cour suprême, c'est des Barbie femmes. Mm-hmm. Enfin, des Barbie, quoi. Il y a des Barbies, genre, qui gagnent des prix Nobel ou je sais pas quoi compris.
Ouais, ouais, ouais.
À chaque fois, elles sont là, genre... Thank you, I deserve it. Il y a vraiment pas du tout ce côté des femmes dans le vrai monde où elles sont là, genre... Oh, je le mets pas ou
oui
ou j'y crois pas que j'ai réussi, elles sont toutes là en fait je vaux ça,
je le vaux merci.
Exactement. Et j'ai vécu trop bien cette première scène qui est assez longue de Barbie Land parce que c'était vraiment des bonbons pour mon cœur.
Ouais, c'est super mignon, divertissant, les couleurs, les costumes sont incroyable. Ouais. Tout est joli et chou et te ramène en enfance. Enfin, ouais. Typiquement, moi, j'avais pas... je pense pas que j'ai eu une maison, mais tu te rappelles après peut-être avoir loué, genre à la ludothèque, ou bien j'avais des copines qui avaient peut-être l'ambulance, puis à un moment, il y a l'ambulance de Barbie.
Oui.
Enfin, tous des trucs avec lesquels t'as vraiment joué, c'est vraiment les mêmes, quoi.
Ouais.
Ça, c'était un choix, je trouve, très intelligent, parce que vraiment, ça ramène tout le monde en enfance, et puis c'était trop mignon.
Ouais, vraiment. Et même si il y a des trucs que t'as pas eu, t'imagines bien que c'était un jouet Barbie, tu comprends tout de suite, en fait.
C'est clair, ils ont vraiment été hyper réalistes. Là-dedans.
Puis il y a les Ken, du coup, dedans aussi.
Et du coup, il y a les Ken, ouais.
Tu veux parler un peu des interactions avec Ken ? Je sais que toi, t'es très fan de Ken.
Je suis un peu triste parce qu'un de mes commentaires, c'était en mode en fait, s'ils veulent faire un film Ken, je suis pas fâchée du tout. Parce que vraiment, je pourrais voir Ryan Gosling, Ken, pendant 2 heures, avoir des interactions de tous les jours. Parce que c'était trop fun.
He's great, I gotta say.
Oui, vraiment.
Trop bien joué.
Tu disais que c'est un matriarcat. On peut dire matriarcat parce que oui. Finalement, il n'y a pas vraiment. Ça veut un peu rien dire ce mot, vu que ça existe pas vraiment.
Non.
Enfin, oui, ce qui est pareil, il y a une tribu, on sait pas trop où. Enfin, fond de la Guinée.
Tout le monde parle de cette tribu.
Voilà, de la fameuse tribu de femmes matriarcales ou en Chine, je sais plus. Mais il y a ce côté en fait où c'est pas un patriarcat fait par des femmes parce que lesquelles on s'en fout, on les oppresse pas, on s'en fout juste.
Ils sont négligés.
Ils sont négligés. On dit pas que c'est super, mais c'est juste, ouais, on s'en fout. On réalise assez rapidement que vraiment les Ken, enfin, n'existent que pour les Barbies.
Ouais.
On sait en fait, on a d'abord créé une Barbie. Mattel, enfin, la créatrice de Barbie a eu d'abord créé une Barbie pour ensuite faire un Ken, enfin,
oui.
Qui va avec. C'est l'inverse de la mythologie chrétienne. Mythologie, ouais. Est-ce que c'est le bon terme? Bref.
Peut-être!
Could be. I don't want to piss anyone. Disons que dans les idéologies générales, c'est plutôt la femme qui a été faite en deuxième. Et vraiment, en fait, les Ken n'existent que pour le regard des Barbies. Et déjà, c'est très rafraîchissant.
Moi, j'ai adoré. Et c'est très drôle.
Et c'est très drôle.
Ken, il est tout le temps là, genre comme un gosse, en mode Barbie,
look at me! Oui. Look what I can do! Enfin, oui. c'est vraiment un enfant qui veut montrer ce qu'il sait faire. Et puis, comme son job, c'est juste bitch. En fait, les Ken, ils servent un peu à rien. Enfin, ils ont des jobs un peu... Il n'y en a pas un qui a un rôle décisionnel ou important dans la société de Barbie Land. On ne sait pas où ils habitent, on ne sait pas où ils dorment.
Barbie, elle est seule dans sa maison, en fait. Elle n'est pas avec Ken.
Ouais,
Elle est, c'est sa dream house, puis elle est seule dedans, puis elle est trop contente.
Oui.
C'est un petit peu l'opposé ou le pendant du patriarcat, mais en même temps... C'est vachement joyeux, différemment de la vraie vie et du patriarcat. Les Barbies sont pas en train de dire aux Ken comment ils doivent s'habiller. Ni en train de leur dire tu dois te marier avec moi, pas du tout. C'est juste qu'elles en ont un peu rien à foutre.
Enfin, puis en même temps, elles ont des interactions avec, et puis voilà, en fait, elles s'amusent bien, elles sont polies, et puis...
Oui, elles sont là genre, hey Ken!
Ouais.
Et voilà. Elles dansent avec eux.
Puis elles amènent Ken à l'ambulance hein, quand il a foncé dans une fausse vague en plastique.
Est-ce que tu veux parler peut-être déjà de la masta réaction que ce film a suscité?
Oui, parce que les gens sont fragiles, quoi. J'ai beaucoup aimé parce que quand on a préparé cet épisode, toi t'avais vraiment un côté à vouloir beaucoup argumenter. Pas argumenter, mais à trouver des raisons particulières qui fait que les gens étaient offensés. Et moi j'étais juste en mode, c'est Little Mermaid all over again.
Ouais.
Enfin, genre, les gens sont juste fâchés parce que les choses évoluent. Ouais. Hashtag woke.
Toi t'étais là, c'est juste des réacs.
C'est juste des réacs misogynes, enfin, qu'est-ce que je te dis.
Mais parce que c'est incroyable. D'ailleurs, j'y pense maintenant, mais tout au début du film, enfin quand il est sorti, il y a eu. Des gens qui ont mis une étoile quand ils ont raté le film.
Oui.
Et ils ont mis des commentaires. Et en fait, les commentaires étaient tellement machistes et juste cons, je suis désolée.
Ouais.
Qu'il y a des gens qui ont pris le poster de Barbie, puis ils ont repris ces commentaires machistes comme si c'était le slogan de Barbie. Attends, je les ai sous les yeux. Donc, an alienating, dangerous and perverse film. Tout ça, c'est genre monté comme un vrai poster de Barbie et je trouve ça très cool.
Oui, à fond.
The feminist agenda will kill us all. Non, mais calmez-vous.
Yes.
They won't be happy until we are all gay.
Je trouve ça génial.
And that's the worst.
C'est ça, exactement.
Vraiment. Et puis, ça, c'est, je comprends pas, parce que je trouve que c'est un compliment. Je comprends pas pourquoi la personne, le mec, je vais m'avancer, a mis une étoile. A pink acid trip that feels like being slapped by lots of confusingly attractive people.
J'avoue, moi, j'aurais pas dit que c'est quelque chose de négatif.
Un pink acid trip, moi, je pense ça comme un compliment.
Oui. Un slap by... Attractive people? Ok. Why you mad? Non, mais bref, les gens étaient vraiment hyper fâchés, quoi.
En fait, ça n'a pas de sens. Moi, la raison pour laquelle je voulais un peu fouiller, c'est que j'étais là, en fait, pourquoi êtes-vous fâchés? Pour moi, il y a l'option, et certainement une grande partie des gens, c'est ce que tu dis. Mm-hmm. En fait, ils n'ont pas du tout réfléchi. C'est juste qu'ils savent que c'est un film féministe, il est si ouvertement féministe, ils sont d'office contre. Mais après, je me suis demandé, genre, est-ce que quand ils voient Ken, qui est vraiment très drôle, mais très con dans le film.
Oui.
Ouais, il est ridicule.
Enfin, il est exactement ça. En fait, c'est un personnage qui est quand même ridicule tout du long. Même à la fin, si c'est pas quelqu'un de mauvais ou rien.
Ouais.
C'est juste qu'il est ridicule.
J'étais là, est-ce que les mecs, c'est masculin fâché? Est-ce qu'en fait, ils voient le film et ils se retrouvent tellement dans Ken que ça leur fait mal au cul?
Ouais, peut-être. Moi, je pense vraiment que n'importe quel film, en plus un qui est comme ça ouvertement, comme j'ai dit, genre féministe, qui est un grand succès et un grand budget, ça fâche tout le monde.
Ça fâche tout le monde. Ouais. Parce que le truc aussi que j'imaginais, c'est que quand ils voient autant de femmes sexy être féministes, ça les fâche aussi.
Ouais, peut-être.
T'es belle, je peux pas t'avoir, et t'es féministe, ça m'envoie péter
en
l'air.
Bah, comme on a vu après toutes les critiques sur Margot Robbie en disant que c'était mid, c'est-à-dire médium dans le sens une meuf pas très jolie. Et ça, c'est quand même absolument hilarant. Parce que t'es un peu là. Alors, si jamais Margot Robbie n'a pas été sélectionnée pour jouer Barbie, parce qu'elle est pas. Elle est vraiment stereotypical Barbie. Oui. Genre, c'est elle. Tu veux décrire pour moi les clichés des standards de beauté actuels, c'est Margot Robbie.
Oui.
Blonde, mince. Très beau visage, yeux bleus, longues jambes. Enfin, genre, qu'est-ce que tu veux d'autre?
Et t'as un mec lambda sur TikTok, il est là, genre, 5 sur 10.
Oui, voilà une photo d'elle sans maquillage, elle est moche. Et t'es vraiment là, mais... Vous avez vraiment plus d'armes, quoi.
En fait, c'est vraiment ce truc que toi, tu dis tout le temps, de toute façon, t'étais moche.
Oui, vraiment, c'est ça. En fait, t'étais laide. Alors que, enfin, genre, dans le Loup de Wall Street, vous touchiez toute la journée sur les scènes de Margot Robbie. Oui. So...
On vous connaît, hein.
Oui, c'est clair. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quand même de plus en plus de films à assez grand budget ou qui ont beaucoup de succès, qui sont de plus en plus ouvertement féministes. Mm-hmm. Ma théorie était pas basée sur beaucoup de chiffres, mais par exemple, j'ai regardé un film sur Netflix qui était vraiment très bien, avec un cool casting, qui s'appelle Do Revenge, je vous recommande. Je pense que ça se revendique plutôt Teenage Movie, parce que c'est des adolescents dans un lycée privé. Vraiment, je le recommande. Je l'ai trouvé incroyablement trop fun. Et c'est aussi très, très, très ouvertement féministe, parce que le plot de base, c'est une miss super populaire qui se fait... qui devient un peu la paria, parce qu'il y a sa sextape qui a leaké, puis on insiste beaucoup sur le fait que le mec avec qui ça concernait, même s'il est pas dedans, bah en fait, lui, il a rien. Et puis c'est très accentué, on accentue beaucoup le fait que c'est pas féministe de faire ça, et puis plein de choses.
C'est elle qui en bave disproportionnellement.
Oui, complètement. Enfin, je veux dire, effectivement, si t'es quelqu'un de giga réac, actuellement, tu vas pas bien vivre ta vie.
Oui.
Parce qu'en fait, de plus en plus de films vont être comme ça. Et puis, je pense vraiment qu'un film comme Barbie, avec un succès pareil, il y aura un avant et un après, quoi. Enfin,
ah ouais, c'est clair.
Enfin, je veux dire, c'est pas possible, parce qu'un film qui est, encore une fois, autant féministe, avec un tel budget, ça va clairement changer les mentalités, quoi.
En fait, c'est drôle parce que tu dis ça, et je suis d'accord avec toi intellectuellement.
Mais t'y crois pas.
Dans mon corps, je suis là, c'est pas possible ce qui se passe. Vraiment, j'en reviens pas, je comprends pas que Barbie existe. C'est pas comme si j'ai pas de critique pour le film, et on va en parler après. 1 milliard au box-office, on parle de patriarcat non-stop, on se fout de la gueule des mecs. Un succès tel.
Ouais.
J'en reviens pas.
Et vraiment, il y a du féminisme pour tout le monde. Il y a plein de blagues qui sont assez deep, quoi. Enfin, faut quand même... Faut être assez au courant où tu dis « Ah ouais, ok, on se moque du mansplaining. Fun. »
Moi, je trouve ça remarquable. Tu sais, je t'avais dit, genre, quand j'ai été le voir, genre, j'ai trop kiffé, je le recommandais à fond, mais j'étais en mode « Ah, finalement, c'était super, je suis contente qu'il existe, mais il est un petit peu basique sur le féminisme. Oui. » Après, je l'ai revu.
Oui.
Il est beaucoup moins basique que ce que je pensais à la base, parce qu'il y a plein de blagues cachées dans tellement de dialogues et qui sont en fait très profondes.
Après, c'est sûr qu'il y a tout un moment de vraiment un speech, enfin, il y a vraiment le speech féministe. Bah là,
Il est basique.
Il est très basique, mais c'est ce que je me dis. 1 milliard au box-office, là-dedans, ça fait réfléchir plein de gens.
Ouais.
Et il y a plein de personnes qui se revendiquent pas féministes ou rien et qui disent genre, ah ouais, c'est vrai, ça, j'ai jamais pensé à ça.
En fait, j'avais pas pensé à ça. Et puis,
j'avais jamais
bien.
Pensé que je suis toujours trop bien habillée ou pas assez, ou qu'en fait, peu importe ce que je fais, on va forcément me faire des remarques. Ouais. Enfin, je sais pas.
Parce qu'elle soulève toutes les contradictions que les femmes doivent incarner.
Oui.
Et que ça a pas de sens. En effet, genre, quand il y a réfléchi, t'es là, oui, mais bon, ça c'est obvious. Mais en fait, si tout le monde avait pensé à ça, on se vivrait plus dans le monde patriarcal dans lequel on vit. Donc, c'est super. Du coup, j'allais te proposer un truc, Coco. J'ai volé l'idée d'un autre podcast. J'ai volé l'idée du podcast Sentimental Garbage, qui parle aussi de pop culture. C'est-à-dire qu'à un moment donné, Barbie et Ken, ils vont dans le vrai monde. C'est égal pourquoi. Oui. Regardez le film.
Si vous l'avez pas vu, regardez le film. Et puis, désolé, mais spoilers.
Hein. Oui, plein de spoilers.
On va dire des bêtises. Mais après, bon, enfin, it's on you. Il faut le regarder.
Et en fait, Barbie et Ken vont dans le vrai monde et chacun et chacune vivent la chose très différemment.
Oui.
Et je trouve que c'est très bien incarné dans la scène, vraiment dès qu'ils arrivent en fait au monde dans lequel on vit. Ouais. Et du coup, j'allais te proposer qu'on lise la scène.
Oui.
Parce que dans cet podcast que j'ai écouté, elle faisait ça, puis je trouvais ça trop drôle. Ce qui se passe, c'est que du coup, ils arrivent et Barbie dit comment elle se sent, mais uniquement sur la base des regards posés sur elle.
Dans la rue.
Et des commentaires un peu balancés.
Ouais.
Mais il se passe pas grand chose encore, hein. C'est juste ça. Mm-hmm. Et comment Ken se sent, et je trouve ça très révélateur et c'est très bien écrit.
Ouais, à fond.
Tu veux être Barbie ou Ken?
Je veux bien être Ken.
Je me doutais pas du tout. Ils sont en roller à Los Angeles, à Venice Beach. Barbie, elle dit: What's going on? Why are these men looking at me?
Yeah, they're also staring at me. Wow.
I feel kind of ill at ease. Like, I don't know the word for it, but I'm conscious, but it's myself that I'm conscious of.
And not getting any of that. I feel what could only be described as admired, but not ogled. And there's no undertone of violence.
Mine very much has an undertone of violence.
J'aime beaucoup le undertone of violence.
Oui.
Parce que c'est ça, en fait. Ouais. Le vécu de l'extrême majorité des femmes dans l'espace public, c'est pas un regard d'admiration. Non. C'est vraiment pas un regard d'admiration. Mais il y a vraiment plutôt undertone of violence. C'est vraiment l'intimidation, quoi, pour moi.
Et je trouve ça vraiment très parlant parce qu'il n'a rien fallu pour qu'ils se sentent comme ça.
Oui, c'est ça. C'est que vraiment, ils sont dans le vrai monde depuis 3 minutes.
Oui,
et voilà.
Et je trouve ça très déprimant et très vrai.
Oui, et très vrai.
Ouais.
Parce que vraiment, moi, j'ai hyper souvent ça.
Ouais.
Où t'es chez toi, tu vis ta vie, t'es cool, en mode hey, féministe, ouais, trop bien. Je suis en crop top. Et tu sors de chez toi et t'es là, oh non.
En fait, non, je peux pas être libre et contente.
Mauvaise idée.
Ouais. C'est ultra grave. Et après, donc ça cette scène, voilà, elle se liquide. Elle se liquide d'ailleurs d'une manière très drôle, mais on peut pas parcourir toutes les scènes.
Oui.
Après, ils se séparent un petit peu, Barbie et Ken, et puis Ken, il se balade tout seul. Il a trop de la peine à se balader tout seul parce qu'il a trop de la peine à exister sans le regard de Barbie. Et toute une scène très drôle où elle est là genre « Vas-y, mais don't get into trouble
ouais. ».
Il va dans le hall d'une espèce de corporation et il observe les hommes et il en revient pas. Genre, il l'a, mais c'est incroyable.
Il y a des hommes partout, des pubs avec des hommes.
T'as genre un van, je crois que c'est un van de flic. Des mecs sérieux qui sortent du van et habillés genre sérieusement, ils ont du swag.
Ah ouais.
Et il y a aussi, dans le hall de l'entreprise, d'une immense corporation, il y a juste genre 4 mecs en costard en train de discuter.
Mm-hmm.
Et il y a l'assistante d'un des mecs qui vient lui parler et lui, il lui dit genre « Not now, Melanie ». Puis il la pointe du doigt.
Un côté un peu hostile avec le genre. Et je la repousse un peu d'une main, ouais, mais sans la toucher. Mais...
Exact. Puis Ken regarde ça, il est trop content, puis il imite le mouvement.
Ouais. Ouais, c'est très drôle.
Très drôle.
C'est vraiment... Mais ça, c'est typiquement des petites blagues subtiles.
Ouais.
Un peu ce côté où... Enfin, on se permet de parler aux gens sans les regarder, quoi. Enfin, je sais pas.
Ouais, c'est vrai.
Tu vois, ce côté un peu corporate, en mode c'est normal de... Mais en fait, tu vois la scène et tu dis, ah, ok.
Mais Ken, il est fasciné.
Et Ken est complètement fasciné parce que tout d'un coup, il arrive dans un monde où les hommes gèrent tout.
Il tombe sur un poster de Sylvester Stallone.
Oui.
Il tombe sur un clip de Grease où il n'y a que des mecs qui dansent.
Ouais.
Il tombe sur les dollars où il n'y a que des mecs dessus. Et il trouve ça incroyable.
Ouais. Ça donne un truc hyper drôle.
Et toi, t'avais dit un truc trop drôle qui t'avait dit genre, il a découvert la masculinité toxique, puis mm-hmm, il est trop content.
Oui, c'est ça. Parce qu'il est en mode, on est représenté.
Ouais.
Mais c'est vraiment Ken qui découvre la masculinité toxique.
Ouais. Mais je trouve ça drôle parce que nous, en regardant le film, je pense qu'on s'est senti comme Ken. On a regardé le début du film, on a vu un matriarcat, puis on était trop contente, puis on avait encore rien à foutre de Ken qui était négligé, tu vois. Et je pense que lui, il se sent comme nous.
Ouais, c'est clair.
Sauf que nous, on n'a pas d'empathie pour lui, parce que c'est pas drôle.
Oui.
Ouais. Et puis après, ils se retrouvent encore les deux, et il y a de nouveau une échange trop drôle. Tu veux encore être Ken ?
Je veux bien, ouais.
Puis la phrase au milieu, c'est juste une passante.
Ouais.
Donc Barbie, il dit... I've started to get all these weirdo feelings, like I have fear with no specific object. What is that? Il y a une passante qui lui dit, it's anxiety, I have it too, they're just awful at this age.
Et Ken qui est en mode, I feel amazing.
Ouais. Et encore une fois, ça me déprime trop.
Oui, parce qu'en fait, c'est juste les femmes qui souffrent énormément,
ouais,
genre de problèmes et de stress et...
La santé mentale en général.
Ouais, la santé mentale qui va pas très bien.
Ouais.
Et un peu Ken, genre, I feel amazing.
Ouais, c'est génial.
Tout se passe monstre bien.
Mais aussi une scène que j'ai pas retirée, que j'ai adorée,
mm-hmm,
c'est quand il voit un mec et il lui dit genre, est-ce que je pourrais avoir un poste à grande importance dans votre entreprise ? Lui, il dit, en fait, il faudrait que t'aies un MBA ou même un doctorat.
Ouais.
Et lui, il dit genre, mais juste parce que je suis un mec, ça suffit pas, mm-hmm, Ken. Et le gars,
gars lui dit bah plus vraiment.
Not anymore. Ouais. Genre plus vraiment maintenant quoi, ça suffit plus.
Et moi j'ai cru qu'ils étaient en train de dire que le patriarcat c'était plus comme avant et ça m'a un peu saoulée.
Ouais.
Mais après Ken lui dit en fait les gars vous faites pas très bien le patriarcat là.
Mm-hmm.
Et le gars lui répond en fait si, c'est juste qu'on le cache mieux qu'avant.
Oui. Et ça c'est une super bonne blague aussi. Ouais. En fait genre puis il baisse un peu la voix. On le fait très bien. On le cache juste mieux.
Oui.
Et je trouve ça montre trop bien. C'est vraiment le sentiment que j'ai. On le fait très bien. Ouais. C'est juste qu'on sait qu'on n'a pas le droit de dire que tout le temps que les femmes sont des hystériques et leur mettre la main au cul. C'est plus discret.
Donc en fait, ils sont dans le vrai monde tous les deux. Barbie est scandalisée, elle fait de l'angoisse déjà. Et les self-conscious sont faites, puis elles sont de la violence.
Ouais.
Tandis que Ken, il est épanoui.
Ouais, vraiment. On me reconnaît à ma vraie valeur, quoi.
Puis il va à la bibliothèque, puis il chope plein de livres sur le patriarcat. Et il croit, ça c'est ta blague préférée.
Et je trouve ça très drôle parce que c'est aussi un peu subtil comme blague finalement. C'est que souvent, dans ce côté de masculinité toxique, il y a souvent des hommes avec des chevaux. Tu vois, que ce soit pour aller à la guerre, le Far West. Enfin, il y a un côté où il y a un rapport avec les chevaux, tu vois, le cow-boy vraiment bien mascu, quoi. Enfin, même si l'équitation, je pense que c'est majoritairement des femmes. Il y a un côté genre les chevaux, c'est pour les vrais, quoi. Et je trouve ça très drôle parce que c'est pas un parallèle que j'aurais fait en dehors de ce film. Et bref, je trouve ça hyper marrant parce qu'en fait, Ken, enfin après, il retourne à Barbie Land et il dit aux autres que c'est les hommes et les chevaux qui gèrent le monde. Et vraiment, toutes ces histoires avec les chevaux, c'est vraiment ma blague préférée.
C'est qu'en fait, quand ils sont dans le vrai monde, ils rencontrent Mattel. Parce que Mattel panique, parce qu'ils apprennent qu'il y a Barbie et Ken dans le vrai monde. Ils sont là, mais en fait, ça va pas du tout. Et là aussi, ils disent plein de trucs qui sont bourrés de double sens. Par exemple, ils disent, on va choper la poupée et we're gonna put her back in the box.
Mm-hmm.
Il y a tellement de triples entendus là-dedans.
Mm-hmm.
C'est mythique, c'est trop bien. Mais Mattel, moi, je trouvais ça super parce qu'ils sont tellement autoridiculisés. J'ai trouvé qu'ils étaient all in. Enfin, il n'y a pas de pincettes. On n'essaie pas de les sauver, Mattel. En fait, on se fout vraiment de leur gueule. C'est pas l'entièreté de ma pensée, mais j'ai trouvé ça cool. Ils se sont dit, en fait, on va faire un film féministe et on va laisser complètement le film se foutre de notre gueule.
Ouais.
Puis on est all in.
Je pense que c'est vraiment la façon de faire.
Ouais.
On est bien d'accord, c'est pas super. C'est un film grave capitaliste. On fait de la pub pour Mattel. C'est une gigantesque pub pour Mattel qui
oui.
a été très bien réussie. En vrai, vous connaissez ça. Mais j'ai envie de le prendre pour a win parce qu'on a un film avec un budget gigantesque qui a une promotion gigantesque et qui, en fait, a un monstre succès et du coup, va potentiellement ouvrir les yeux des gens sur plein de problèmes féministes. Et je pense vraiment ce côté qu'ils ont vraiment, je pense, laissé carte blanche à la réalisatrice, ça c'était vraiment ce qu'il fallait faire, quoi, parce qu'ils en ont fait des conneries.
Ouais.
Et puis, j'adore que vraiment, on se moque tout le temps des produits. Tout ce qu'on voit dans le film, c'est des trucs qui ont existé. Et puis, il y a vraiment des choses qui étaient mais complètement absurdes, des poupées qui ont été lancées sur le marché, qui voulaient rien dire, ou qui étaient vraiment pas du tout OK. Et puis, c'est très drôle d'en rire maintenant.
Oui.
Et Mattel le fait.
Ouais.
Et ça, c'est cool.
Je suis d'accord avec toi que c'est un win. Ce film, c'est une immense pub pour Mattel. On sait que, de toute façon, le résultat, le double tranchant, le revers du film, c'est qu'ils vont vendre une pétée de Barbie.
Mm-hmm.
Je pense que ça doit... Je ne connais pas les chiffres, mais ça doit être en train de cartonner, là.
Ouais, j'avoue.
Parce que moi, j'avais l'impression que vraiment, Barbie, c'était un truc has-been. On n'en parlait plus, en fait. Je ne sais pas à quel point c'est vrai ce que je pensais, mais en tout cas, là, ce que le film a fait, donc c'est super parce qu'on parle de féminisme, mais il a lavé Barbie de tous ses péchés. Tout d'un coup, Barbie est devenue cool.
Ouais.
Et toujours est-il que Barbie, c'est des standards de beauté impossibles, et je pense, c'est la crainte que j'avais, on en a parlé ensemble, c'est Mona Chollet qui en parle dans Beauté Fatale, avec le phénomène de Mad Men, en fait. Que dans Mad Men, on critique les années 60, le sexisme des années 60, les femmes, vraiment les secrétaires habillées comme des poupées sexy, les femmes au foyer tout le temps habillées comme des poupées sexy, et elle disait, ça a eu cet effet pervers qu'en fait, au lieu de prendre la critique du film, dans les magazines de mode, mm-hmm. c'était genre, habillez-vous comme la secrétaire sexy, quoi.
De Mad Men, ouais.
Et je me suis dit, dès le début, que ça va refaire ça, c'est-à-dire tout d'un coup, on va renforcer de nouveau les standards de beauté Barbie.
Et ça n'a pas manqué.
Ça n'a pas manqué, j'ai vu un TikTok affreux
oui.
sur un truc que je savais même pas que ça existait, c'est le Botox Barbie.
Mm-hmm.
C'est-à-dire t'enlèves le trapèze en bas de ton cou.
Ouais, ou tu fais un truc spécial, enfin il coupe pas, non ?
Je sais pas. C'est une injection ?
Dans ma tête c'était de l'injection, mais je pense pas en fait parce que...
Bref, c'est peut-être une injection.
Ouais.
Mais en gros, si jamais vous saviez pas, mais il faut complexer sur ça.
Oui, si jamais il y avait un complexe dont vous ignorez l'existence, voilà. En voilà un nouveau.
Moi je savais pas que je devais complexer sur ça, mais il paraît qu'il faut que je complexe parce qu'en fait, la jonction entre mes épaules et mon cou n'est pas un angle droit. Et il faut que ce soit un angle droit pour ressembler à une poupée.
Oui.
Et il y a une intervention qui existe pour que ton cou ressemble à une poupée, parce qu'en fait, il fallait déjà complexer sur tellement de choses, et il fallait ajouter ça.
Oui, tout à fait. Et puis, c'est vraiment un truc, enfin, Botox Barbie, et puis il disait que ça avait explosé depuis le film Barbie, parce qu'il s'est recruté pour allonger le cou et tout, enfin bref. Et vraiment, comme d'habitude, à chaque fois que tu vois un truc comme ça, tu te dis, vraiment, c'est n'importe quoi, et tu finis la vidéo et tu dis, en fait,
tu vas voir ton cou.
En fait, tu vas voir ton cou et t'es là, ah ouais, c'est pas super, ouais. Puis tu vois les vidéos avant-après, t'es là, ah ouais, c'est mieux, ouais.
C'est plus beau.
Ah ouais.
Enfin, en allant voir Barbie, ça j'en avais vraiment peur, quoi. Ça va juste vendre plus de Barbie, ça va laver Mattel de tous ses péchés, ça va renforcer des standards de beauté impossibles. Et tout ça, genre, je l'ignore pas. Genre, c'est là-dedans.
Oui, enfin, c'était vraiment un film, comme t'as dit, qui a été fait pour laver Barbie de ses péchés. Mm. En même temps, justement, ils ont ce côté très autodérision. En fait, l'histoire, c'est que les Barbie pensent qu'elles ont vraiment réglé les problèmes de sexisme.
Oui.
Et ça, c'est très drôle.
Oui.
Vraiment, c'est très, très marrant, parce que évidemment, on sait que genre Barbie, c'est l'enfer. Enfin,
ouais.
Quand tu vois le physique qu'elles ont, et puis le fait qu'elles soient toutes blondes, fines, avec des longues jambes, c'est l'enfer. Enfin,
ouais.
Et en faisant cette blague, parce que vraiment, la stereotypical Barbie, elle arrive dans le vrai monde et elle est en mode « But we fixed everything ».
Oui.
Genre, ce n'est plus un problème. Et elle en prend plein la gueule.
On l'appelle fasciste.
On la traite de fasciste parce que vraiment, en fait, c'est tout le contraire
qu'elles
ont fait. Je trouve que c'est une blague qui est très marrante. Et puis du coup, on va un peu bosser là-dessus. Et le fait de rajouter une dose de féminisme dans ce film, ça fait qu'effectivement, Mattel se lave les mains en disant « On a fait un film féministe, on peut vous vendre des Barbie anorexiques maintenant sans problème. »
Ouais, on peut continuer notre life. Après, comme tu disais, s'ils changent leurs produits...
J'ai vraiment aucune idée de s'il y a déjà des Barbie avec des formats différents. Je sais qu'ils font des Barbie noires.
Oui.
Probablement asiatiques aussi,
oui.
Qui sont pas juste des Barbie Disney genre Mulan, quoi.
Après, ils font des Barbie astronautes, des Barbie
oui.
présidentes, médecins, bah, tout ça.
Oui, ce qu'il y a, en fait, il y a toujours eu ces Barbie-là. Ouais, vraiment, j'ai aucune idée de s'ils diversifient ça, ni si j'ai envie qu'ils le diversifient. C'est toujours un peu tout un débat. Mais j'espère qu'ils vont arrêter de vendre que ces Barbie aux proportions complètement inatteignables. Mais oui, enfin, on a parlé du Barbie Botox et puis de représentativité. Moi, je suis vraiment en train de réaliser ces temps à quel point la représentativité est hyper importante, genre de se voir représenter différemment, de voir des corps différents. Enfin, là, on est début octobre, mais quand on enregistre. Mais j'ai passé un été, comme tout le monde, où il faisait beaucoup trop chaud, et puis j'étais beaucoup à la plage. Je réalise que j'ai vu beaucoup de corps différents, peu habillés. Par exemple, maintenant, il y a la mode vraiment des maillots de bain très échancrés, un peu string tanga, comme ça.
Ouais.
J'étais tellement impressionnée que autant de personnes qui soient pas une taille 34 les portent. Et j'étais vraiment en mode, mais en fait, ça me fait vraiment beaucoup de bien. Et pas du tout dans le sens de I'm so much better than everyone.
Ouais.
Et moi, je porte pas ça, mais je devrais.
Ouais.
Vraiment pas du tout, mais juste dire, en fait, ça me fait vraiment beaucoup de bien de voir des personnes qui assument leur corps, qui le vivent bien, enfin, qui ont l'air de le vivre bien,
ouais.
Après, j'en sais rien du tout. D'être juste, entre guillemets, confrontées à d'autres physiques qui vivent leur vie.
C'est vraiment ça, des physiques qui vivent leur vie.
Qui vivent leur vie, mais vraiment, en Italie, mais les gens n'ont rien à carrer. Il y a des gens qui sont tellement bien foutus, selon tous les standards actuels, et d'autres, tu vois juste qui sont là en mode, c'est mon corps, je vais à la plage.
Mm-hmm.
J'en ai rien à péter.
Mm-hmm.
Et je trouve ça fantastique. Et puis ça me rappelle qu'il y a quelques années, pour moi, ça a été entre guillemets un effort, mais que j'ai vraiment fait un peu un choix conscient de m'abonner à plus de comptes, typiquement sur Instagram, de personnes avec des physiques différents, que ça soit des personnes handicapées, ou grosses,
mm-hmm.
ou des gens qui assument leur poil. Et vraiment, ça me fait un bien incroyable. C'est pour ça que je fais tout ce speech. Juste pour dire que j'ai un peu peur qu'un film comme Barbie, ça n'aille pas du tout dans ce sens-là. Et puis que vraiment, la représentation, c'est super.
Je suis assez d'accord avec toi. Moi, j'ai senti ce truc de représentation récemment en regardant la série Only Murders in the Building avec Selena Gomez. Puis Selena Gomez, tu sais, c'est une pop star avec des standards de beauté et tout ça, mais elle fait pas taille 34.
Ouais, là, ça a été le gros débat un peu aux Grammys et tout. Enfin, je sais plus quel truc, parce qu'elle fait plus... elle est plus Hollywood thin, quoi. C'est-à-dire, elle est plus anorexique. Ou je sais pas quel problème elle a eu,
mais... En fait, je sais pas du tout quel poids elle fait, mais dans la première saison... Dans la deuxième, je crois qu'elle a encore plus pris de poids.
Ouais.
Et en fait, j'étais là, elle est trop belle.
Oui, on s'en fout.
On s'en fout. Et puis, à un moment donné, elle porte un jean. Et c'est trop con, mais moi, ça m'a fait trop du bien. Je me suis vraiment sentie mieux dans mon jean le lendemain, quoi.
Mm-hmm.
Parce qu'elle est là, elle a juste un beau jean avec une ceinture et un pull. Et elle fait pas taille 34. Mais c'était juste trop cool de pas qu'elle fasse vraiment comme le petit doigt, quoi.
Mm-hmm, mm-hmm.
Parce que j'ai eu un changement intérieur assez vrai. C'est ça que j'ai réalisé avec Selena Gomez. C'était pas juste intellectuel, oui,
c'est cool, des corps différents. Non, mais vraiment, je me suis sentie mieux dans mon jeans.
Ouais, 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 ouais. Moi, j'ai eu ça avec un peu mes poils sous le bras.
Ouais.
Vraiment, j'ai envie de dire que ça peut faire des effets vraiment complètement... Une seule personne peut tout changer. J'ai juste vu une vidéo, une photo que Angèle avait postée d'elle avec, genre, justement, les aisselles pas du tout épilées. Et j'étais en mode, genre, man, si Angèle peut faire ça, genre, délibérément poster une photo sur Insta, même pas une story, un post ouais. dans son feed Insta. Et ça m'a trop fait du bien. Et en fait, après, j'ai trop décidé d'assumer. Enfin, en fait, ouais. j'ai eu un peu un switch tout d'un coup à avoir un peu le même rapport que j'ai au maquillage, à me dire, en fait, si j'ai pas envie de le faire, je le fais pas.
Mais j'ai eu la même chose, mais pas avec Angèle, mais avec d'autres gens qui ont affiché leur poils. Et tout d'un coup, je les enlève de temps en temps quand j'ai envie de les enlever, en fait.
Oui,
les
c'est ça.
Poils sous les aisselles. Mais c'est assez drôle parce que justement, il y a des gens, des femmes très glamour qui ont normalisé les poils sous les aisselles, mais j'ai plus de peine avec les poils ailleurs parce que j'ai pas vu d'exemple, justement, encore.
Mm-hmm.
Mais les aisselles, quelqu'un l'a glamourisé pour moi.
Ouais, et c'était bon.
Et je me sens très bien, du coup, avec, ouais. Enfin, il y a des gens qui l'ont fait il y a longtemps. Il y a même Julia Roberts qui l'a fait dans les années 80.
Ah ouais.
Je sais plus quelle féministe postait ses aisselles, puis elle faisait référence à ça.
Waouh.
Ouais.
Julia Roberts.
Julia, baby.
C'était elle qui était montée les marches aussi en enlevant ses talons, non?
Ah oui.
Parce qu'il y a eu récemment un truc, enfin maintenant, genre à Cannes, je crois qu'il y a tout un truc, genre, t'es pas autorisé à enlever des talons.
Des trucs qui vont dans le bon sens.
Oui, oui. Non, mais... Parce que y a eu... Her. Mais oui.
Florence Pugh.
Non, Twilight. What's
ah
her
oui,
name?
C'est juste.
Elle a fait ça il y a quelques années, puis c'était un peu genre...
Kirsten Stewart.
Ouais, qui avait fait ça, puis ça avait fait un peu scandale, et puis apparemment, il y avait... Dans ma tête, c'est Julia Roberts, peut-être c'était quelqu'un d'autre.
Elle se référait déjà à quelqu'un d'autre.
Oui,
quoi.
Justement, ou en mode, en fait, c'est monstre chiant de monter des talons. Des gigantesques marches en talons, c'est une pression complètement débile où je risque de me casser la gueule et de finir à la une de
J'ai
tous les journaux.
J'ai toujours détesté Cannes.
Je le dis.
Oui. À chaque fois qu'on me dit « Ovation de 8 minutes à Cannes », je vois le film, je suis là genre... Bref, pour moi, Cannes n'a aucune crédibilité. Je suis désolée, je suis juste une bande de machos qui pète une durite parce qu'elle a enlevé ses talons, quoi. Du coup, si on revient à Barbie...
Après, il y a le retour à Barbie Land.
Oui, à la maison.
Et, sauf que maintenant, ce n'est plus Barbie Land, c'est Kingdom.
It's a Kingdom Land.
Kingdom Land. Dojo, mojo, casa house. Barbie retourne à Barbie Land, c'est maintenant Kingdom. Elle revient donc avec deux femmes humaines
oui.
du vrai monde pour leur montrer, genre, regardez comme c'est super chez nous, en fait. Chez nous, ça marche. Enfin, oui. voilà. Sauf que, ben, en fait, non, ça n'existe plus.
Oui, parce que Ken est rentré avant elle. Il a prêché la bonne parole.
Ouais.
Et le patriarcat, c'est génial.
Oui. Et du coup, en fait, toutes les Barbies ont été vraiment... elles ont vraiment subi un lavage de cerveau. Et c'est très drôle. Et en fait, elles sont complètement au service des Ken. Il n'y a plus de Barbie présidente,
oui.
Journaliste, elles ne reçoivent plus des prix Nobel.
Oui.
Elles sont juste au service des Ken.
Genre, t'as la Barbie présidente qui sert de la bière.
Oui.
T'as la Barbie, je sais pas moi, physicienne qui fait un massage de pied à un autre Ken.
Mm-hmm.
Enfin, vraiment, ça ressemble au monde actuel, quoi.
Oui. Tout à fait.
Moi, cette partie-là, je la trouve très audacieuse de la part du film. Est très ambitieuse. Parce qu'en fait, je trouve que la Barbie stéréotypique, qui est notre Barbie principale, quand elle rentre à la maison, elle dit « Oh my God, ils ont reprogrammé les Barbies, puis elles sont brainwashed.
Mm-hmm. »
Je trouvais que ça se prenait un petit peu au jeu d'expliquer l'origine du patriarcat, c'est-à-dire que les hommes ont brainwashed les femmes.
Ouais.
Est-ce que je suis pas d'accord avec ce statement ? Si, je suis d'accord avec ce statement. Mais je trouvais ça quand même audacieux de dire ça comme ça.
Ouais, ok.
Je pense que simplement, quand tu dis à quelqu'un tu es brainwashed, c'est juste insultant. Donc dans le vrai monde, je dirais jamais à une femme t'es brainwashed parce que en fait t'es dans un cercle vicieux où tu lui enlèves de la gentillité
ouais.
et tu lui dis t'as plus de cerveau et t'as pas envie de dire ça ni à une personne et t'as pas envie de dire ça aux femmes. Du coup, je dirais pas ça comme ça. Mais en fait, ils ont pas tort non plus. Puis c'est ok de sursimplifier les choses dans le sens que c'est un film de poupée. Et mais j'ai trouvé ça vraiment quelque part. Elles sont là, mais en fait, le patriarcat existe et il survit toujours parce qu'on nous a brainwashed, parce qu'on nous a gaslighté. Et c'est pas faux, mais j'étais vraiment genre, pendant le film, j'étais là, ah ouais, vous dites ça comme ça en fait. Enfin, ouais. Je sais pas, toi t'as vécu ça comment en ce moment?
Ça m'a pas marqué plus que ça en okay. fait. En vrai, j'étais en mode, oh no! Le patriarcat! C'est partout! J'ai pas suranalysé ouais. plus que ça, mais j'adhère et j'aime bien ta théorie, qui est simplement en fait,
ouais.
si on veut, entre guillemets, nous on est dans le patriarcat parce qu'on a été brainwashed. Enfin, parce qu'on a grandi dans une société profondément misogyne
ouais.
depuis des millénaires. En fait, tu nais là-dedans. Donc,
ouais.
c'est comme si tu es une personne née dans une secte. fatalement, you're brainwashed.
Bah oui.
Parce que t'es né là-dedans, dans ce système. Enfin, donc, ça fait du sens.
Non, mais ça fait du sens. C'est juste que moi, je trouvais le mot brainwashed un peu trop dur.
Ouais.
Et même si, fondamentalement, je suis d'accord. Et après, j'en discutais avec d'autres gens. Et puis, c'est vrai que, en fait, t'es brainwashed no matter what.
Oui, de toute façon.
Parce que t'es éduqué avec quelque chose. Donc, en fait, on pourrait vivre dans une société où on nous éduque à garder notre esprit critique et tout ça, donc qui peut être mieux. Mais on est vraiment éduqué dans le patriarcat. Donc, c'est clair, c'est du brainwashing. Et puis, l'autre truc, enfin, deux autres trucs que je trouvais, encore une fois, audacieux, c'est que quand la Barbie principale dit à la President Barbie, lui dit genre, mais what are you doing, genre, toi, t'es présidente. Mm-hmm. Puis elle est là, genre, en fait, c'est vachement cool de plus avoir de responsabilité.
Ouais.
Puis je trouve que c'est, ça fait partie un peu de la réalité aussi, et je dis pas ça que les femmes, du coup, méritent le patriarcat. C'est juste que je pense que c'est une réalité à laquelle il faut faire face pour n'importe qui. C'est cool à un moment donné qu'on te dise, en fait, baby, si tu restes à la maison et tu vas pas travailler, en fait, c'est cool. Il y a un côté où t'es contente pendant 5 minutes, hein, pas plus. Mais je veux dire, il y a un aspect, je pense, réel des gens où t'es contente, des fois, de plus avoir de responsabilités.
Ouais.
Et je pense que les hommes vivent la même chose, par exemple, avec, si on prend le schéma des années 50, ils sont là, genre, je me lave les mains, j'ai pas besoin d'élever mon enfant, parce que c'est franchement dur et beaucoup de responsabilités d'élever un enfant.
Oui.
Les hommes font la même chose, en fait. Ils sont là, moi, je vais aller bosser, et toi, tu t'élèves mon enfant, et je m'en occupe pas.
Ouais, ouais.
Et je pense qu'il y a un côté où se responsabiliser fait chier, en fait.
C'est sûr.
Et puis, le pendant de ça, pour moi, c'est Ken, qui genre vient dans le monde réel et il est là en fait now I'm a jackass parce que j'adore être respectée et puis ça aussi I get it
oui
et c'est tout des trucs en fait si on veut un monde égalitaire il faut tous qu'on soit plus mature
oui ça c'est sûr
j'ai trouvé ce moment assez ambitieux de la part de Barbie c'était un peu genre nous le film on explique comme ça le patriarcat les hommes s'y sont mis un jour et les femmes ont été brainwashed séduites aussi en partie par le fait que comme ça elles avaient moins de responsabilités et puis les hommes séduits par le fait qu'ils avaient plein de respect et après ça a fait un cercle vicieux infini je suis pas sûre que je suis d'accord avec ça mais je trouvais ça audacieux
oui moi j'aimais bien comment c'était amené et du coup avec tout ça en fait les Barbies vont quand même pas se laisser faire. Le problème, c'est que effectivement, stereotypical Barbie essaye d'agir un peu comme ça, mais elle se rend compte que ça marche pas, enfin qu'elle peut essayer d'en parler aux autres Barbie et essayer de comprendre ce qui s'est passé, mais ça marche pas très bien. Elle va donc retourner voir Weird Barbie, et puis ils vont créer tout un plan d'attaque. C'est toujours fait d'une manière très drôle, en fait. Tout le film est très marrant. Parce qu'en gros, elles se disent, il faut qu'on éloigne les Barbie des Ken suffisamment de temps pour un peu leur faire rentrer, les remettre dans le droit chemin. Et c'est toujours, vraiment, moi j'aurais pu, une heure et demie de film se rappeler de ça. C'est vraiment plein de petites blagues constantes où on va essayer de faire des trucs pour déconcentrer les Ken et détourner leur attention sur autre chose. Et en fait, c'est une heure et demie, pardon, c'est cinq minutes de Ken qui font du mansplaining avec une Barbie qui vient et puis qui se dit « Ah, vous regardez, je sais pas quel truc. » Et « Ah, moi, j'ai jamais vu le parrain. » Et le Ken qui se retourne et qui lui explique le plot du parrain et plein de trucs. Et j'ai trouvé ça absolument mythique.
Une des femmes, elle dit un truc contradictoire dans le patriarcat. Elle dit genre « Il faut que tu sois maigre, mais pas trop maigre. » Parce que si c'est trop maigre, on va dire que t'es anorexique, un truc du genre. Et là, tout d'un coup, la Barbie qui est en face d'elle, pouf, elle se déprogramme, puis elle se réveille. Puis la Barbie stéréotypique dit, en fait, si tu verbalises la dissonance cognitive qui est demandée pour exister dans le patriarcat, tu lui enlèves le pouvoir et tout d'un coup, tu te réveilles.
Et c'est super profond,
Et puis, la stéréotypique Barbie qui dit, en fait, waouh, je viens de dire ça en fait.
I just say that.
Étonnée par sa propre intelligence.
Oui.
Et du coup, à chaque fois, donc elles font ce que t'as dit. Elles déconcentrent les Ken en faisant les petites poupées qui savent rien. Oh là là, le.
Ah, Photoshop, c'est trop dur.
Oui, aide-moi.
Non, elle avait pas besoin de dire. Elle a dit genre, mais c'est trop dur.
Oui, c'est vrai.
Et le gars arrive et genre. Et qui lui explique tout, quoi.
Et pendant ce temps-là, les Barbie kidnappent sa meuf. Ils lui disent un truc contradictoire, qui est dissonant. Et tout d'un coup, elle se réveille. Il y a genre « I'm a physicist ». J'en ai marre de faire du massage de pied à mon mec.
C'est vraiment tout un truc hyper marrant que vraiment... Ça, c'est typiquement une des blagues que j'ai trouvé assez, un peu profonde. Enfin, il faut avoir compris ce genre de dynamique. Enfin, faut l'avoir remarqué ou qu'on te l'ait fait remarquer. C'est simplement ce genre de dynamique des hommes qui viennent toujours donner des conseils quand on n'a rien demandé et puis qui viennent t'expliquer un film et surtout un film tellement stéréotypiquement mec, quoi. Genre Le Parrain.
C'est trop bien.
Et c'est vraiment, vraiment, c'est hyper drôle. J'aurais adoré avoir un film entier là-dessus. je maintiens ça.
Non, mais moi, je pense qu'il y a de fortes chances qu'il y ait un film Ken.
Vraiment, je suis désolée de dire ça, mais j'espère. Je suis désolée d'être, que mon enthousiasme soit genre aussi fort pour Ken. Mais vraiment, c'était trop marrant. J'ai adoré. Et puis aussi, on voit en fait vraiment l'interprétation du patriarcat par Ken, qui est vraiment magique. Déjà, il a trois montres. Et ça, c'est pas un détail que j'ai vu, c'est en regardant des vidéos après qu'on m'a fait remarquer ça. Et il y a ce côté très, je sais pas, masculin, capitaliste du « je dois avoir 3 montres ». Puis les montres, moi j'ai jamais compris le délire avec les montres déjà. Ouais. Mais il y a un côté genre, c'est tellement un statut, la montre. Parce que tu peux avoir une Rolex ou une autre montre encore plus chère. Et puis, puis ça prouve que t'es quelqu'un. Et le fait que lui, il en ait 3, c'est magique. Il porte que des manteaux de fourrure. Parce que quand il était dans le vrai monde, il a vu des trucs avec Sylvester Stallone, qui dans les années 80, apparemment, portait beaucoup de fourrure. Il appelle sa maison la Mojo Dojo Casa House. Genre, vraiment, like a douche. Ah oui, il y a ce long-term, long-distance, low-commitment casual girlfriend. C'est vraiment une des meilleures blagues aussi. Et c'est aussi très profond.
Dans la deuxième partie de comment elles se battent contre le Kingdom et le patriarcat que Ken est en train de construire, elles sont dans la partie divisées pour mieux régner, c'est-à-dire la même chose que les hommes ont fait avec nous pendant des millénaires. Ouais. Elles reséduisent leur propre Ken. Et du moment qu'elles l'ont dans leur poche, tout d'un coup, elles lui donnent plus d'attention, puis elles vont vers l'autre Ken.
Vraiment, ça, c'est un des trucs les plus profonds qu'il y a dans ce film.
Mais oui, les hommes font ça avec nous, mais tout le temps. Et après, tout c'est nous, des folles,
oui.
Les jalouses, les tarés, enfin, ces mots-là, quoi, utilisés,
oui.
Les hystériques, enfin, tout ça, parce qu'on n'a pas assez confiance en nous, alors que n'importe qui perd complètement confiance en soi et perd sa boule.
Oui.
Si on fait, tu aimes quelqu'un, elle te dit qu'elle t'aime pendant 5 minutes et 2 secondes après, elle est vers ton meilleur pote, tu vois.
Oui, en train de le draguer, clairement. Oui, c'est clair, c'est vraiment un truc. Enfin, moi, j'ai vraiment adoré tout ce concept-là parce que la scène est très drôle, en fait. Enfin, ils sont en train de jouer, ils jouent tous de la guitare sur la plage et c'est magique, ça, c'est une monstre bonne blague. Et après, au bout d'un moment, juste, chaque Barbie se lève et va vers un autre Ken en train de jouer de la guitare.
Ouais.
Alors que c'est un moment très romantique au bord du feu sur la plage, quoi.
Ouais.
Moi, j'ai adoré ça parce que c'est, voilà, c'est typiquement un truc qu'on a tellement reproche aux femmes, comme tu dis, d'être complètement, d'imaginer des choses et puis d'être jalouse. Et aussi, c'est ce côté où, en fait, les Ken se sentent hyper blessés pour l'attention des femmes. Enfin, genre, on met les Ken en concurrence, les uns contre les autres. Et c'est vraiment ce truc qu'on reproche et puis que la pop culture a matraqué et la culture en général matraque sur les femmes, quoi.
Ouais.
En se disant qu'elles vont se battre pour les hommes, pour l'attention des hommes, et puis elles sont vaines et puis tout ce qui compte.
C'est ça, en fait. Bref. Sauf que les Barbie font ça au Ken. Et puis la scène que tu disais, c'est justement quand Barbie va reséduire Ken pour qu'elle puisse faire ce plan, en fait.
Et puis Ken est un peu en mode maintenant j'ai que des long term, long distance, low commitment, casual girlfriend. Et c'est très drôle parce que c'est ce côté tellement masculin qu'il peut pas s'engager, quoi.
Puis en fait puis elle y va, puis elle lui dit genre ouais, je veux bien être ta long term, long distance, low commitment, casual girlfriend. Puis il est là genre pardon, il est trop content, ça se voit.
Ouais.
Mais il fait son difficile, il rentre chez lui dans sa maison. Et puis après, on l'entend gueuler « Stop by !» Et après, il ressort et il fait genre « Ah, je suis pas sûre que j'en ai envie. » Elle lui dit « S'il te plaît !» Puis en fait, et tout d'un coup, il regarde son biceps, puis il le serre un petit peu, puis il lui dit « Ok.
» Sublime.
Et je suis désolée, vous allez croire que c'est une blague exagérée, mais moi j'ai vraiment connu des mecs. Enfin, moi j'ai sorti avec des mecs où tu leur touches le bras, tout d'un coup ils serrent le biceps. Je suis désolée.
C'est clair.
Le terme de long term, long distance, low commitment, casual girlfriend, c'est trop beau.
C'est un poème en soi, quoi.
Parce que c'est un truc bourré de contradictions et les meufs sont censées être ça pour leurs mecs. Déjà, ouais. C'est du long term, donc en fait c'est pas un truc de nuit. Mais en même temps, c'est low commitment. Fais pas chier trop, meuf. T'es là pour moi tout le temps quand je veux, mais c'est low commitment, ok? On se comporte comme si c'était casual, puis c'est aussi long distance dans le sens que je te fous la paix.
Ouais, magique.
Puis sauf que c'est le truc de diviser pour mieux régner et de rendre les Ken jaloux entre eux pour l'attention des Barbies, c'est un miroir juste parfait du monde actuel. Et ils ont fait la guerre entre eux.
Entre eux, et comme ça, elles ont pu revenir, elles, au pouvoir.
Elles ont pu reinstate Barbie Land, en fait.
Et vraiment, toutes les scènes de bataille et de trucs sont absolument magiques et merveilleuses et incroyablement drôles. Et ça vaut trop la peine.
À un moment donné, les Ken sont en train de se fighter. Et tout d'un coup, il y en a deux qui se regardent vraiment dans les yeux. Ils sont vraiment vénères, comme ça. Et tout d'un coup, il y a comme des paillettes qui sortent.
Mm-hmm.
Et la scène change complètement. Et ils sont tous habillés en noir, comme dans Grease, apparemment, tu m'as dit.
Oui. Enfin, en tout cas, moi, c'était la ref, c'était ça. Enfin, des mecs qui dansent en mode Grease, quoi.
Donc, ils sont tous habillés en noir.
Genre, very tight. Genre, t-shirt, pantalon, tout ça.
Et c'est des beaux corps de mecs.
Mm-hmm.
Et en fait, j'aimerais bien en voir plus.
Ouais.
Show me more. Et c'est tellement drôle. Et ils se battent. À un moment, leur bataille, ils font juste du papier caillou ciseau. Et il y a un des Ken qui perd, puis ils sont là, genre. Puis ils refont en papier caillou ciseau, puis ils sont là, genre. Puis ils continuent de danser.
Ouais, c'est vraiment ridicule et tellement divertissant.
Ouais.
Et puis ça finit aussi, en fait, Barbie et Ken qui ont vraiment une conversation un peu sur où ils en sont. Puis ce qui est cool, c'est qu'on humanise tout le monde là-dedans, comme ma phrase préférée de tout le film, où Ken dit à Barbie, genre, honestly, as soon as I realized patriarchy wasn't really about horses, I kind of lost interest. Parce que comme je vous ai dit, les trucs avec les chevaux, c'est mon truc préféré.
Ça m'intéresse même plus du coup. Parce que...
Oui, parce qu'en en fait, il n'y avait pas vraiment de chevaux. Donc, on a dû prendre trop de décisions. C'était trop dur. Ouais. Et avec des phrases où Ken pleure et puis il dit « I don't think it's weak because I'm crying ». Enfin, des trucs où je suis en mode « Ok, quand même ». Je sais pas, des phrases assez à double sens et puis bien avancées. Oui. Dans la lutte féministe, quoi.
Ouais, puis comme tu dis, ils humanisent tout le monde dans le sens que Barbie, sa fin, c'est qu'elle décide de devenir humaine, puis vraiment avec les sentiments, avec les nuances, avec la cellulite, enfin tout ça.
Ouais, ouais.
Et puis Ken, c'est ce qu'elle lui dit, Barbie, elle lui dit en fait, c'est trop drôle, elle lui dit « Je te dois des excuses ». Puis Ken, il fait « Puis elle, oui. Elle lui dit en fait, il faut que tu saches qui tu es sans moi.
Ouais.
Du coup, Ken apprend à être Ken sans Barbie, puis Barbie apprend à être humaine.
Ouais.
Et ils sont tous et toutes humanisés, du coup.
Oui, puis tout le monde a avancé, en fait.
Quand je l'ai revue pour la deuxième fois, la fin est vraiment touchante.
Ouais.
Il y a vraiment une fin où Barbie décide vraiment de devenir humaine, puis elle commence à pleurer, puis c'est toute une scène méga touchante où il a une gamme d'émotions qu'elle n'avait pas avant.
Ouais, ouais, ouais.
Et c'est trop joli.
Au-delà des blagues, je dirais féministes, qui sont assez genre poussé,
ouais.
Ben il y a un côté très profond dans le film qui est en mode en fait qu'est-ce qui fait de toi un peu un être humain. Et puis il est vraiment très beau, enfin je veux dire, sans que ça soit 2 heures où tu pleures, je veux dire, il y a vraiment beaucoup d'émotions, je m'attendais pas à ça.
Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Il y a une double couche trop intéressante, mais genre quand Barbie dit à Ken il est temps que tu saches qui tu es sans moi, c'est pas genre it's Barbie and Ken. Mais c'est It's Barbie and It's Ken.
Ouais.
Le message est pour Ken dans le film, mais en vrai, le message est pour les femmes.
Ouais, j'avoue. Parce que l'assimilation dans les couples, et puis. Ouais.
Puis le Doctor and Mrs. Enfin, je veux dire, on prend le nom de nos mecs quand on se marie.
Ouais,
donc,
ouais.
C'est de l'assimilation totale, alors qu'il est temps de savoir qui tu es sans ton mec, en fait.
Ouais.
Et c'est pas anodin. En fait, il y a pas grand chose d'anodin dans ce film.
Non, il est tellement riche.
Ouais.
Il y a tellement de détails, de blagues, et vraiment, on n'a pas l'impression que les choses ont été mises là par hasard.
Non, je pense qu'il y a rien qui est là par hasard, c'est vrai.
Et je pense vraiment que ça en fait, ça profite. Et puis le fait qu'il soit si cool.
Et si bourré de succès. Et après, c'est clair que... Enfin, je lisais des fois des trucs où d'autres féministes ont dit que voilà, c'est un film féministe, c'est un type de féminisme.
Mm-hmm.
Puis en effet, parce que c'est un féminisme consumériste, ça c'est clair.
Oui, oui. Non, bah,
et
oui.
Puis c'est clair qu'on ne parle pas de non-binarité. Je veux juste reconnaître que c'est très binaire.
Oui, alors on parle d'un truc très hétéronormatif, ouais. Binaire.
On parle même pas de personnes gays.
On parle pas d'homosexualité du tout. Alors on parle pas d'antiracisme non plus.
Non.
Même s'il y a des personnages racisés. Voilà, on reste sur le bon gros féminisme blanc.
Et là-dessus, moi, je voulais dire un truc que je trouve intéressant. C'est que du coup, on critique beaucoup à la pop culture qu'il n'y a pas assez de représentation et c'est juste.
Mm-hmm.
Par contre, je trouve qu'il y a un truc intéressant. C'est qu'en général, et ça, je l'ai vécu aussi dans ma propre vie quand on a commencé le podcast, en fait. En général, les gens sont là. Meuf, si t'es blanche et t'es considérée comme belle et puis t'es considérée comme mince, je vois pas de quoi tu te plains. Et ils ont l'image que les féministes, c'est des meufs considérées comme grosses, lesbiennes, et puis pas considérées belles, et c'est pour ça qu'elles sont frustrées, parce qu'elles sont mal baisées, et c'est pour ça qu'elles râlent. Mais en fait, le fait qu'on faisait un podcast féministe, et on est cis hétéros, blanches, et dans les standards de beauté et tout ça, tout d'un coup, il y avait un côté où les gens écoutent, parce qu'ils sont là, en fait, il y a deux côtés. La première, c'est que si toi, tu râles alors que...
T'es pas dans la marge.
T'es pas dans la marge. Donc, ça veut dire qu'il y a vraiment un problème. Et l'autre truc, c'est aussi que, malheureusement, on a appris à avoir de l'empathie pour la classe dominante. C'est le fameux syndrome de Stockholm sociétal. C'est-à-dire que t'as de l'empathie pour les mecs, déjà. T'as de l'empathie pour les personnages blancs.
C'est
pour ça que dans la plupart des films, les personnages principaux, c'est des mecs blancs, cis hétéros. De temps en temps, des meufs blanches, cis hétéros. Et c'est un problème. Mais du coup, en fait, j'aimerais quand même clarifier ce que je veux dire, parce que je pense que c'est important qu'il n'y ait pas un malentendu là-dessus.
Ouais.
Je trouve ça absolument crucial qu'on continue de travailler pour représenter à l'écran, pour mettre sous le spotlight de manière nuancée plein de personnages différents, plein de corps différents, que ce soit des personnes racisées, sexisées, en situation de handicap, considérées comme grosses, enfin tout ce qui est de la vie, quoi. Mais là, je reconnais juste qu'on vit dans une société malheureusement tellement problématique, elle déshumanise une grosse partie de sa population.
Ouais.
Et ça fait que je soupçonne que ça a été efficace de mettre un message féministe dans la bouche d'une meuf aussi stéréotypique que Margot Robbie.
Ouais.
Je trouve ça intéressant que justement c'est la Barbie stéréotypique qui fasse la crise existentielle. Et vraiment, je dis ça pour parler du côté très problématique de la société. Et je vois ça pas du tout comme une solution à utiliser tout le temps, mais je reconnais l'efficacité de l'outil, en fait. En fait, simplement, ce que je dis, c'est que c'est l'utilité d'avoir quelqu'un qui est dans le pouvoir critiquer le pouvoir. C'est bêtement ça que je dis.
Moi, une fois, limite, si on m'a pas dit, genre, presque comme ça, genre, Lirza, les mecs ont envie de te baiser, alors pourquoi tu te plains?
Ouais, enfin, ouais.
Genre, limite, c'est ça que ça veut dire.
Oui, bien sûr.
Bah, en fait, je me plains parce que ça va pas, ce qui se passe.
Ouais, c'est ça.
Je sais pas si c'était clair ce que j'avais dit.
Pour moi, c'était clair. Je peux pas parler pour les autres. I don't know.
Trop cool. Est-ce que t'as l'énergie pour Renaissance?
Oui.
Comme on avait dit, qu'on va parler d'un deuxième phénomène mondial, global, commercialement aussi, et pas juste culturellement, qui met en évidence une culture queer, en l'occurrence, mais avec beaucoup de féminisme dedans, beaucoup d'empouvoirment féministe dedans. Et c'est l'album de Beyoncé, Renaissance, et plus concrètement, sa tournée mondiale, qui vient de se terminer avec l'annonce d'un film, d'ailleurs. Moi, je suis fan de Beyoncé depuis Lemonade.
Oui, moi aussi.
Et il paraît que Beyoncé, ça fait depuis le self-title, donc avant que moi je sois fan, qu'elle affiche dans ses concerts le mot féministe.
À une époque où ça se faisait pas du tout.
Non, c'était vraiment avant 2017.
Ouais, se revendiquer féministe, ça se faisait pas. Sauf si t'étais féministe. Et sauf si t'étais une autrice féministe très assumée.
Sauf si t'étais Virginie Despentes, quoi.
Oui, c'est ça.
C'est une pop star ultra mainstream, vraiment qu'il a affiché en fait. Et puis que les gens embarquent ou ils embarquent pas, un côté comme ça.
Ouais, ouais, ouais.
Et ça, c'est méga empouvoirant. Après, elle a fait des albums ultra deep, Lemonade, ça m'a cassé le cœur en deux. Il est et féministe et antiraciste et anti-hétéronormatif. Enfin, il est incroyable.
Ouais, ouais, ouais.
Mais après la pandémie, genre après un peu le côté dark de Lemonade quand même.
Mm-hmm.
Elle est venue avec un album joyeux.
Ouais.
Elle le dit qu'il est. Le but, c'est de saisir de la joie. Le but, c'est de s'amuser. En fait, je pense qu'on peut toutes et tous un peu aussi se retrouver là-dedans. Genre, t'as fait un travail activiste, t'as fait un travail de déconstruction. C'est dur.
Mm-hmm.
Et là, t'as envie de danser, en fait. Renaissance, c'est un album disco, dance, avec un peu de R&B dedans. Et le but, c'est aussi de se réapproprier culturellement ce genre de musique qui, en fait, a été inventé par la communauté noire à Chicago, si je dis pas de bêtises, qui était une communauté noire et homosexuelle, qui a inventé le genre, en fait, disco house.
Qui est, en fait, la base de toute la musique électro. Juste ça.
Qui a été complètement appropriée culturellement par les Blancs, bien sûr. Mm-hmm. Ça se voit clairement, je trouve, qu'elle fait une réappropriation culturelle, parce que c'est une meuf noire. Et aussi, quand elle a gagné les Grammys, puis elle a fait un speech, elle remercie la communauté queer qui a inventé le genre. Elle leur rend la gloire, elle leur rend ce qu'il aurait dû, quoi, en fait.
Oui, c'est clair que c'est pas des choses que dont t'es forcément au courant. Après, bon, il n'y a pas besoin non plus d'avoir un master en histoire de la musique pour se rendre compte que le disco, c'est très gay. Mais il faut le savoir aussi, parce que c'est vrai que tu penses disco, enfin, je sais pas. Alors moi, j'adore le disco, mais enfin moi, ma base de disco, c'est ABBA.
Ouais.
On n'est pas sur du gay noir, quoi.
Ouais, c'est vrai, moi aussi.
Après, effectivement, il y a toujours d'autres noms. Tu connais plein de groupes. Il y a beaucoup de stars différentes, mais ce qui reste forcément, c'est pas une évidence que c'est gay, quoi.
Moi, je savais pas ni que c'était gay, ni que c'est noir. Je savais pas grand-chose, en fait, sur le genre disco, de toute façon. Mais en tout cas, je savais pas que c'était noir.
Ouais.
Genre, c'est assez drôle parce que, ouais, le jazz, je savais, mais c'est comme, somehow, plus connu comme fait.
Ouais, jazz, rock'n'roll.
Bah, rock'n'roll, moi, je savais pas, c'est toi qui m'as dit.
Ah oui, 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 c'est vrai.
Tu l'as dit, et deux minutes après, je suis venue vers toi, j'étais là, pardon, avant, t'as dit...
Est-ce que je peux faire mon plot sur le disco en fait maintenant? Est-ce que j'ai enfin une scène qui est obligée de m'écouter? Pas forcément.
The mic is yours.
Donc j'adore le disco, je suis une très grande fan et j'ai toujours remarqué un peu ce côté très dédaigneux par rapport au disco.
Ah.
Et il y a tout un truc où ma mère était aussi monstre fan de disco et disait en fait on n'arrêtait pas de se foutre de ma gueule et des gens qui aimaient le disco en mode genre en fait il y avait beaucoup ce disco versus rock à l'époque du disco en disant qu'en fait le disco c'était de la merde et puis machin. Au point où j'ai appris une fois en regardant RuPaul's Drag Race qu'il y a eu un mouvement anti-disco qui était genre national aux États-Unis. Enfin vraiment, genre c'était le mouvement Disco Sucks.
Wow.
Où des gens... Alors je sais pas si ça a été fait plusieurs fois, mais ça a été notamment lancé par un DJ, un disc jockey de l'époque, genre en radio, où ils ont cramé des CD de disco ensemble à un moment. J'étais un peu là, non mais enfin, avant de réfléchir un petit peu, j'étais là, mais c'est quoi votre problème? Enfin, genre, vous détestez à ce point-là le disco que vous devez vous réunir et puis que c'était un mouvement, enfin, c'était pas juste trois rageux, enfin, c'était genre un stade gigantesque à Chicago.
Waouh!
Et j'étais là, mais c'est quoi votre problème? Jusqu'à ce que. C'est difficile de pas faire le parallèle entre le fait que c'était une musique queer as fuck, noire, latino, on rassemblait tout, il y avait beaucoup de femmes, on se préparait, il y avait ce côté très, je veux dire, au-delà, même si tu étais quelqu'un de gay, ce côté très préparé, très flamboyant, je viens vraiment dressed up for the night. C'est trop difficile de pas faire le parallèle entre ça.
En fait,
c'est juste des vieux réacs ou des jeunes vieux réacs blancs qui ont pas supporté qu'il y ait autant de visibilité. C'est tellement violent. Et en même temps, ça fait trop du sens. sens. J'ai toujours trouvé ça très bizarre, ce côté un peu à trouver le disco nul. Alors maintenant, je veux dire, c'est de retour. Enfin, j'ai l'impression que, je veux dire, Beyoncé a fait un album house, enfin, it's back everywhere. Mais je veux dire, ça, c'est pas elle qui a inventé la tendance. Ça venait petit à petit, par un peu à gauche, à droite.
Oui, ça venait clairement.
Et ça fait exploser. Et puis, en général, il y a plein de gens qui aiment le disco, puis qui s'y intéressent. Puis c'est un peu cool, parce que c'est très, très vieux aussi. Mais j'ai toujours senti un espèce de dédain avec la musique disco que maintenant j'explique en disant aux gens qu'ils sont misogynes et racistes.
D'ailleurs, pour faire écho à ce que tu dis, il y a un truc, j'ai pas encore eu la plateforme pour le dire. Tu te rappelles quand il y a l'album Random Access Memories de Daft Punk qui est sorti, qui est Disco is Shit, et qui a été un succès instantané vraiment, vraiment fulgurant avec Get Lucky. C'est un très bel album. Enfin, moi, je kiffais trop, je l'ai écouté un été en entier. Et en fait, récemment, j'ai réalisé que je suis vraiment vénère parce que plein de gens, plein de mecs, excuse-moi, mais des gens aussi que je connais qui adorent cet album comme si c'était l'album culte de leur vie. Ne donne pas une seconde d'attention à Renaissance de Beyoncé.
Ah ouais.
Alors que Renaissance de Beyoncé, je suis désolée, c'est un chef-d'œuvre.
Ouais.
C'est un chef-d'œuvre disco. Et puis en fait, il y a ce côté que c'est une meuf, une pop star qui a chanté Single Ladies puis elle est noire. Alors que quand c'est deux gars français dans un studio à Paris qui ont fait ça.
Oh Paris,
exactement. You guys are Jesus Christ, quoi, en double.
Oui, oui, oui. Et ça me on fait des références à des mecs blancs européens du disco.
Exactement, Giorgio Moroder. Il y a tout un
Love him, he's Italian, love it. J'adore l'italo-disco.
C'était vraiment un très bel été en écoutant cet album, je l'adore toujours. Sauf que j'ai très des mixed feelings justement parce que c'est deux Parisiens. Et vraiment, je connais des mecs dans ma vie qui adorent cet album. Je suis là genre, mais pourquoi t'écoutes pas Renaissance en fait?
Ah, mais c'est trop mainstream. Daft Punk, ça ne l'est pas, tu vois.
C'est niche.
Oui, mais c'est des mecs, c'est plus intentionnel, quoi.
Mais oui.
C'est pas, ils font pas ça pour passer à la radio, des featuring avec Pharrell.
Beyoncé, c'est le mot que tu adores, elle est commerciale.
Trop commerciale. Ouais. J'adore, si vous dites commerciale, we can't be friends. C'est pas vrai, je vous accepte aussi.
Si vous voulez aliéner Corinne, vous dites commerciale.
Par aliéner, ça veut juste dire que je vais lever les yeux au ciel intérieurement et passer à autre chose.
Et vous, tu vas quand même continuer la discussion. Si on a le temps après, on va parler de l'album plus en détail. Mais nous, on a eu le privilège, je considère vraiment que c'est un privilège. On a été la voir en live pendant la Renaissance World Tour.
Et c'était super.
Et j'ai encore pensé à ce que tu disais avant, parce que je ne connaissais pas tout ton historique avec le disco. Enfin, je le connaissais un peu, mais pas tout.
Ouais.
Ce côté où on y va dressed up.
Oui,
parce
oui,
que
bah
tout
oui.
Tout le monde est allé dressed up au concert de Beyoncé.
Les gens étaient tellement. C'était tellement préparé, c'était tellement un événement. Oui. Ça m'a fait trop plaisir.
Moi aussi.
Parce
trop.
Que j'ai l'impression que je me la pète à chaque fois, je le dis quand je peux. Mais j'avais été la voir à Zurich pour la tournée de Lemonade. Et j'avais pas du tout ce même sentiment de flamboyance et de préparation. Ouais. Mais peut-être que je faisais juste pas attention et puis qu'il pleuvait et que j'étais en caouet et que voilà.
Ouais,
c'était
okay.
pas fun. Non, c'était okay. un monstre bon concert. Mais vraiment, les gens étaient tellement... Ils faisaient monstre chaud. Et les gens étaient tellement habillés. Ils s'étaient tellement sapés pour l'événement.
Ouais.
Et ça faisait trop plaisir. J'ai jamais fait partie d'une si belle foule.
Oui, c'est ça. Et qui était d'ailleurs très joyeuse et très sympa. Très chill comme foule, je trouvais. Parce que toi, tu m'avais dit que quand t'avais été voir Beyoncé, tu m'avais dit... jamais vu un niveau de hystérie, de fandom comme ça.
Ouais, moi ça m'avait fait un peu peur quand même parce que j'ai fait beaucoup de concerts et puis plein de choses très différentes, que ça soit des concerts de métal. Je me suis pas très sentie en sécurité au concert de Beyoncé parce que vraiment, c'est-à-dire elle avance sur un bout de scène qui avance vers toi et les gens, genre il y a un mouvement de foule et moi ça m'a vraiment fait peur.
Ouais. Donc ça c'était il y a 4 ans, enfin 5 ans.
Ouais.
Alors que cette fois-ci, j'ai trouvé ça très chill. Et je suis allée tellement plusieurs fois vers des inconnus parfaits, leur dire your outfit is fabulous. J'avais juste envie d'aller vers les gens et de leur dire qu'ils étaient super.
Ouais.
Et avant qu'on coupe l'épisode, parce que la suite va être plutôt pour les Patreons, Beyoncé a enfin réussi à déstabiliser notre hétérosexualité. Tu veux peut-être parler de ça un petit peu
Bah, je disais qu'en fait, je trouvais absolument fascinant ce côté d'avoir vu autant d'hommes, on va pas se mentir, majoritairement gays, qui étaient si habillés tout en étant si déshabillés.
Ouais.
C'est-à-dire qu'il y avait beaucoup d'efforts, c'était pas juste des mecs à torse nu.
Oui.
C'est pas ceux en ville qui me saoulent. C'était des hommes, genre préparés avec des hauts à paillettes, soit échancrés, soit un peu soit transparent ou des tout petits shorts et puis c'était hot.
Moi j'en ai vu un, il était en string et il avait une robe argentée par-dessus qui était transparente, donc on voyait juste son string par-dessous et c'était trop sexy.
Et vraiment, en fait, notre conclusion de ce concert de Beyoncé, c'est que en fait les hommes comprennent, enfin, ne transposent pas le fait qu'ils trouvent que des femmes qui se dévoilent, c'est sexy à eux. J'étais un peu là, vraiment, les hommes n'ont pas capté le pouvoir des habits sexy.
Ouais.
Et depuis, je suis un peu obsessed.
Ouais, genre, si tu veux pécho, mec, habille-toi plus sexy.
On en a marre des polos.
Oui.
Stop it.
Vos polos de merde. Avec vos shorts à une longueur hybride bizarre. Genre, oui. Pas jusqu'au genou, mais un peu en dessus ou weird.
Puis vous êtes tous les mêmes, enfin genre... C'est bon.
Et quand tu m'as dit ça en live à Francfort, mm-hmm. et moi j'étais là, j'avoue que j'ai envie de croquer des fesses.
Oui, c'est vraiment ça. Ouais. C'est juste, t'es un peu là, en train de d'utiliser ton éventail, quoi. Enfin, vraiment, il y avait un gars qui avait un haut, genre vraiment... c'était un peu des paillettes, mais genre, c'était comme un haut juste métallique.
Oui.
Et j'étais vraiment en mode, genre, this is so hot.
Hot, hot, hot.
Hot, 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 like hey, stolen yeah. Chanel.
Oui. Et c'était vraiment, vraiment trop bien, trop bien. Et c'est un immense safe space queer et féministe,
ouais, vraiment,
en fait.
C'était ça. C'était un tout trop agréable. Trop chou et trop chaud.
Tant que je t'ai déjà dit 1000 fois que je suis dans une spirale descendante dans des chaînes YouTube de pop culture, mm-hmm. et il y en avait une, elle disait que, en fait, le climat politique, il vire de plus en plus à droite en général,
ouais.
de plus en plus réac et conservateur, mais la pop culture, elle fait justement l'inverse, elle contrebalance, puis elle est plus à gauche. Et ça m'a fait trop rire comme statement, genre la pop culture est à gauche. Et j'étais là, mais c'est vrai en fait, aux États-Unis, on rebloque l'avortement, enfin il y a tellement de trucs horribles qui se passent,
ouais.
et en même temps, t'as un phénomène massif commercial comme ouais. Renaissance World Tour, où c'est juste blindé de meufs féministes, de mecs gays, mecs bi, meufs lesbiennes, et ils sont tous en train de have so much fun.
Oui.
Et c'est trop bien, et c'est trop beau.
Ouais, c'est clair.
C'était vraiment mythique. Mais du coup, je suis désolée, mais on va faire la suite pour les Patreons. Mm-hmm. Coraline, est-ce que tu veux convaincre les gens d'aller sur Patreon, s'il te plaît? Non, pardon, je vais reformuler. Est-ce que tu veux essayer de convaincre les gens? Qu'est-ce que tu leur dirais pour qu'ils s'abonnent à Patreon?
Lirza travaille beaucoup. Et très fort. Please do it. Pour produire du contenu de qualité, parce que c'est toujours quelque chose qu'on oublie. Enfin, à l'ère d'Internet, tout est gratuit et... Croyez-moi que je fais partie de ces gens aussi qui profitent de ces choses. Mais c'est quand même vachement plus encourageant de faire quelque chose quand tu sais que tu as vaguement des sous
oui.
qui défrayent plus que te payer des vacances aux Bahamas.
Yes, et puis si on veut aussi pérenniser un minimum le projet, parce que c'est clair que là, du coup, on le fait dans notre temps libre, avec notre motivation fluctuante, notre motivation qui change de couleur, voilà. Mm-hmm. Donc c'est clair que si t'as de l'argent pour, peut-être, je fais pas de promesses, mais je veux dire, si on avait de l'argent pour ou un budget, on peut vraiment créer de l'espace à ce projet, ouais. gagner de l'argent pour, et du coup, tu pérennises le projet. Et voilà, donc si vous voulez, il y a du contenu exclusif dans la suite de cet épisode. Allez sur Instagram, il y a le lien, et c'est patreon.com/lespoissonsambicyclettes. Et dès 5 balles par mois, vous avez accès à tout le contenu.